Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, voici les titres. Saisie record de cocaïne en République tchèque pour l'année 2007. L'Institut pour l'étude des régimes totalitaires peut poursuivre ses travaux. Et puis, une manifestation contre le radar américain est prévue demain à Prague. La police et la douane tchèque ont saisi 37,6 kg de cocaïne en 2007, soit 8 fois plus qu'en 2006. En revanche, la quantité d'héroïne saisie a diminué en passant de près de 28 kg en 2006 à 20 kg en 2007. Ces chiffres ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de la publication du rapport annuel réalisé par la Centrale Nationale Antidrogue. La consommation croissante de cocaïne en République tchèque avait déjà été confirmée par les résultats publiés cette semaine dans l'étude intitulée Danse et drogue en 2007. L'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, une organisation chargée de mener des recherches sur les périodes du communisme et de l'occupation nazie de la Tchécoslovaquie, cet institut peut poursuivre ses travaux. La Cour constitutionnelle a en effet rejeté jeudi la demande faite par 57 députés sociaux-démocrates d'annuler la loi. Ces derniers estiment que l'Institut, qui a débuté ses activités fin janvier, pourrait influencer politiquement l'interprétation de l'histoire du pays. Suite à l'annonce de la décision de la Cour, le directeur de l'Institut, Pavel Žáček, a déclaré qu'il était satisfait du verdict rendu et qu'il pouvait garantir que l'Institut resterait neutre et objectif. Fin de citation. Je vous le disais en titre, une manifestation est prévue demain après-midi pour protester contre l'implantation d'un radar américain sur le sol tchèque, un radar qui devrait être partie intégrante du bouclier antimissile que Washington souhaite installer en Europe centrale. Les participants à cette manifestation se réuniront devant le château de Prague, puis se dirigeront vers l'ambassade des États-Unis en faisant circuler une pétition pour réclamer un référendum sur la question. La Chambre basse du Parlement autrichien a adopté une modification de l'accord d'information entre les gouvernements tchèques et autrichiens. Ce document doit contribuer à une meilleure collaboration des deux pays lors de la résolution des questions sensibles relatives à la centrale nucléaire de Temelin. Rappelons que cette centrale, située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière autrichienne, constitue un important sujet de discorde entre Prague et Vienne depuis plus de 20 ans, la partie autrichienne considérant Temelin comme un danger pour la région. Et puis à Olomouc, c'est le début de la 11e édition du festival ce dimanche, du Festival de la Culture Française. Se poursuivra jusque tout au long de la seconde quinzaine du mois de mars. Des projections de films sont essentiellement inscrites au programme, ainsi qu'un concert d'un groupe bourguignon. Les Trapettistes, c'est leur nom. Le festival baptisé Nous célébrons la francophonie sera lancé par la diffusion de musique belge, africaine et québécoise sur les ondes de la radio tchèque dans l'émission Oh là là, Olomouc. On termine avec un mot sur la météo et un temps variable à nuageux avec quelques averses locales et des chutes de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude. C'est le temps sur la majeure partie du territoire. Aujourd'hui, jour de la fête des routes et Mathilda en République tchèque. C'était Alexis Rosenzweig pour les informations et on se retrouve dans 3 heures pour un nouveau bulletin.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Bienvenue à l'écoute de la dernière revue de l'actualité de cette semaine. Elle débutera par les prises de position tchèques suite au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Ensuite, Arkady Subelova nous présentera le projet de dédommager les habitants de la Russie subcarpatique ou Ruthénie, une région qui autrefois faisait partie de la Tchécoslovaquie. Anna Kubishta nous entraînera dans le monde du cinéma avec la fin du festival du film documentaire Jeden Svět. Et Václav Richter nous amènera à l'exposition du peintre Wilhelm Riedel qui vient d'être inaugurée à Prague. Bonne réception et agréable moment à toutes et à tous. Comme tous les ans, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne se sont réunis jeudi et vendredi à Bruxelles pour le sommet du printemps de l'Union européenne. Au programme, les changements climatiques, l'énergie, la protection contre les effets de bascule sur les marchés financiers et la stratégie de Lisbonne. Pour représenter la Tchéquie, le Premier ministre Mirek Topolánek, le ministre des Finances Miroslav Kalousek et le vice-premier ministre aux Affaires européennes Alexander Vondra. La question des visas américains n'était pas au programme du sommet, mais on en a beaucoup parlé avant son ouverture. Le vice-premier ministre tchèque aux affaires européennes, Alexander Vondra, ne cachait pas sa satisfaction, car la Tchéquie a atteint son but. Les pays membres pourront négocier individuellement la question des visas avec les États-Unis, parallèlement aux négociations de la Commission européenne. On écoute Alexander Vondra.
Nous n'avions pas l'intention d'ouvrir cette question. Du fait que nous avions menacé de le faire, nous étions arrivés à nos fins. Si quelqu'un ouvre la discussion sur cette question, nous ne resterons pas muets, mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons atteint notre objectif et nous sommes satisfaits.
Satisfait, le Premier ministre Mirek Topolánek était loin de l'être à l'issue de la discussion sur le réchauffement climatique et la politique énergétique. En effet, les chefs de gouvernement des 27 sont tout juste arrivés à se mettre d'accord sur la lutte commune contre les changements climatiques. Pas de conclusion sur les quotas d'émissions de CO2 ou même sur la politique énergétique commune. En fin de compte, Mirek Topolánek a même mis en garde contre les conséquences que pourrait avoir l'adoption du paquet écologique en ces termes.
Paradoxalement, cela aurait des effets négatifs sur l'environnement, car toute une partie du marché et de la production concernée pourrait être déplacée en dehors de l'Union européenne, dans des pays qui n'appliquent pas des normes aussi sévères dans la protection de l'environnement. En fin de compte, du point de vue global, la situation serait encore pire qu'avant l'adoption d'un paquet écologique dont l'objectif est justement de diminuer les influences négatives sur l'écologie mondiale.
En ce qui concerne la baisse des émissions de CO2 de 20% d'ici à 2020, comme le demande l'Union européenne, la délégation tchèque a proposé d'augmenter la production d'énergie nucléaire, ce qui serait un des instruments pour atteindre cet objectif. À l'égard du projet de création d'une union méditerranéenne présenté par le président français Nicolas Sarkozy, la Tchéquie, comme d'autres pays nouveaux membres, a émis certaines réserves envers ce projet qui a quand même été adopté. Un litige vieux de 63 ans s'est retrouvé cette semaine à l'ordre du jour de la Chambre basse du Parlement. Un groupe de députés de toutes couleurs politiques a soumis un projet de loi proposant d'indemniser les anciens citoyens tchécoslovaques qui ont été forcés après 1945 de quitter la région de la Ruthénie, faisant depuis 1919 partie de la Tchécoslovaquie et attribuée après la guerre à l'Union soviétique. Yarkagi Subelova.
À la conférence de paix de 1919 à Paris délimitant les nouvelles frontières après l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, une partie de l'actuelle Ukraine, appelée à l'époque Russie subcarpathique, devenue ensuite Ruthénie, avait été cédée à la Tchécoslovaquie. En termes géographiques, il s'agissait d'un territoire d'environ 20 000 km² qui fait aujourd'hui partie de l'Ukraine, car après 1945, la Ruthénie a été incorporée à l'Union soviétique. Selon le chef de la Commission des affaires étrangères, le député social-démocrate Jan Hamáček, la République tchèque devrait payer sa dette.
À mon avis, la République tchèque a l'obligation de prendre ses responsabilités dans cette affaire. L'ancienne Tchécoslovaquie a obtenu de la part de l'ex-Union soviétique des compensations pour les biens des familles rapatriées. Il est donc de son devoir d'indemniser les descendants des personnes concernées.
Selon le projet de loi sur l'indemnisation, les personnes concernées pourraient demander des compensations pour les maisons et le reste des bâtiments agricoles, ainsi que pour les locaux servant à une activité économique dont l'existence physique peut être prouvée à la date du 30 janvier 1946 et pour les terres et forêts. Il est vrai qu'une indemnisation partielle pour les biens privés et individuels uniquement a été déjà versée en 1959. Or, sur la somme totale de plusieurs centaines de millions de couronnes reçues de Moscou, Prague n'en a renversé que 13 millions. Il n'empêche, le ministre des Finances Miroslav Kalousek se montre défavorable à une indemnisation compte tenu des frais budgétaires supplémentaires estimés par le précédent ministre à 10 milliards de couronnes. Selon le député Hamáček, cette somme est exagérée. En réalité, les compensations ne dépasseraient pas 1 milliard. Il souligne qu'il ne faut pas trop tarder à indemniser nos anciens concitoyens de Ruthénie pour que le problème ne coûte à l'avenir très cher. En 2006, l'association de la Russie subcarpathique, qui représente les intérêts des anciens habitants de la région, a porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir gain de cause, rappelle-t-il.
Cette loi est un moyen de régler une fois pour toutes cette affaire et de ne pas risquer d'une nouvelle plainte. Même le médiateur de la République, Otakar Motail, qui s'est penché sur le sujet, a prévenu qu'il serait bien de régler le problème ici pour empêcher qu'il ne nous coûte beaucoup plus cher que la somme dont on parle aujourd'hui.
Initié par les députés sociaux-démocrates, le projet de loi est soutenu par des députés du Parti civique-démocrate, principale formation de la coalition gouvernementale, ainsi que par des communistes, et ses chances d'être adopté sont élevées.
Parmi les dernières projections présentant les grands vainqueurs de la 10e édition du Festival des documentaires sur les droits de l'homme, Jedensfiet, deux documentaires consacrés à la Russie contemporaine. Les deux films se suivent et les sujets se croisaient incidemment, l'un évoquant l'affaire de l'ex-agent des services secrets russes empoisonné, Andrei Litvinenko, l'autre intitulé « Lettre à Anna » du Suisse Eric Berkraut, rendant hommage à la journaliste assassinée le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaya. Deux documentaires qui rappellent, si besoin, qu'il y avait bien quelque chose de pourri au royaume de Vladimir Poutine. Anna Kubishta s'est entretenue avec Eric Berkraut et lui a demandé ce que cela représentait pour lui de recevoir le prix Václav Havel pour son film.
Je suis à la fois heureux et triste de recevoir ce prix. Heureux parce que c'est une récompense, ça fait parler d'Anna. Triste parce que c'est un sujet sur quelqu'un qui a été assassiné. Le fait que ce soit le prix Václav Havel, c'est pour moi, c'est hautement symbolique parce que Václav Havel est quelqu'un qui a jamais donné des réponses simples à des questions complexes. De quelque manière aussi, c'est un symbole que les choses peuvent changer. Quand il était en prison, lui-même et personne ne pensait qu'il allait être président de la République tchèque.
Donc vous aviez déjà reçu un prix il y a 2 ans pour votre documentaire Coca, la colombe de Tchétchénie. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, Lettre à Anna est un peu la suite de ce documentaire?
C'est sûrement la suite. Lettre à Anna n'existait pas sans Coca. En même temps, la manière dont l'histoire est racontée est très différente, c'est clair. Après l'assassinat d'Anna, je me suis retrouvé dans cette situation étrange d'avoir 3 ou 4 heures de rush avec elle. Notre travail est souvent très étrange. On fait du documentaire avec beaucoup d'efforts. On tourne. Et après, dans le montage, presque tout disparaît. Et là, je me suis par contre retrouvé dans une situation où j'avais vraiment beaucoup de matériel. Mais quand même, j'ai longuement hésité au début pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais pas me relancer dans une histoire triste. J'hésitais aussi parce que je me disais il y aura plein de films sur Anna, juste que je vais me lancer dans la concurrence, ça me semblait indigne vu le sujet. Mais après j'ai re-regardé mes rushs et je me suis dit je suis le seul à pouvoir vraiment raconter l'histoire de ces rushs, comme moi je pense qu'il faut les raconter.
Est-ce que vous connaissiez bien Anna Politkovskaya? Vous l'aviez rencontrée souvent lorsque vous avez fait votre premier documentaire sur la Tchétchénie?
Anna était une personne extrêmement lucide et je me suis dit que moi aussi il faut que je sois très lucide. Donc je ne vais pas faire une image fausse de nos rapports. Nous n'étions pas des amis. Nous nous sommes rencontrés 4 fois. Mais chaque fois on a eu des entretiens très pointus, très précis sur des sujets très importants parce que Anna n'était pas quelqu'un qui voulait perdre son temps. Et ceci fait que j'ai vraiment des documents importants, qui la montrent aussi dans des... Une fois, elle est souriante, elle s'amuse, elle est triste, elle est presque cynique, elle est furieuse. Donc ça donne quand même un ensemble d'expressions assez riche, bien qu'on s'est rencontrés que 4 fois en fait.
Et est-ce qu'il y a une relève de cette journaliste courageuse aujourd'hui en Russie? Est-ce qu'il y a des journalistes ou des personnes que vous avez rencontrées qui peut-être vont poursuivre sa tâche?
Je suis assez sûr qu'il y a des journalistes qui poursuivent cette tâche. Et là, notre responsabilité, la liberté d'expression, ce n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une obligation, une responsabilité de les soutenir. Je les ai pas tellement rencontrés parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de vraiment parler aux gens qui étaient proches d'elles. Parce que je voulais, dès le début, avoir un aspect d'un portrait intimiste. Parce que je crois pas aux films politiques, aux accusations, général, je voulais qu'on partage la vue d'Anna et c'est pour ça que j'avais besoin des personnes proches d'elle.
L'exposition de tableaux de Wilhelm Riedel organisée par la Galerie nationale de Prague au Palais Kinski révèle au grand public un peintre injustement relégué aux oubliettes de l'histoire. Václav Richter, lui aussi, vient de découvrir cet artiste exquis qui pourtant a égalé, au XIXe siècle, les meilleurs paysagistes tchèques.
Wilhelm Riedel était tchèque de langue allemande, né dans une vieille famille de verriers du nord de la Bohême. Il a vécu entre 1832 et 1876, et selon la commissaire de l'exposition, Šárka Leubnerová, il a passé une grande partie de sa courte existence en voyage, toujours à la recherche de nouvelles inspirations.
Sa vie a été relativement riche après des études à l'Académie des Beaux-Arts à Prague chez le professeur Maximilian Haushofer, ensuite pendant 4 ans à Düsseldorf chez le peintre romantique allemand Andreas Aschenbach. Il a fait 2 longs séjours en Italie. À l'instar de son professeur, il s'est rendu à Rome, au Pestum, en Sicile, où il a peint des monuments antiques. Le paysage italien a changé son style, sa palette s'est éclaircie et enrichie de couleurs resplendissantes.
À partir de 1864, l'artiste vit en France, dans les environs de Barbizon, et plus tard chez le peintre tchèque Soběslav Pinkas, établi à Cernay-la-Ville. Le style de Wilhelm Riedel s'imprègne du réalisme lyrique de l'école de Barbizon. Sa palette nous fait penser à Corot et Daubigny.
C'est sans doute Charles-François Daubigny qui a eu la plus grande influence sur lui. Daubigny, comme Riedel, ont travaillé en Bretagne, au même endroit, près de l'île de Bréa. Ils ont peint les mêmes paysages.
Wilhelm Riedel cherche à saisir le caractère austère et grandiose de la côte bretonne et des îles de Sark et de Guernesey. Sur ces toiles de ce temps-là défilent des rochers fouettés par le vent et les vagues de l'Atlantique, des phares, des menhirs, de pauvres villages de pêcheurs. C'est là qu'il trouve le motif d'un de ses tableaux les plus célèbres, la chapelle des mouettes de l'île de Sark, représentant une formation de rochers monumentaux et pittoresques qui sert de refuge aux oiseaux de mer. Il est fasciné par le granit rose de Bretagne qu'il peint sous différents éclairages. Il passe également quelque temps en Seine-et-Oise, où il ne se lasse pas de saisir la beauté chatoyante des berges des rivières dans une série de toiles dans lesquelles il fait fructifier la leçon de Corot. Vers la fin de sa vie, Wilhelm Riedel, malade, revient en Bohême et son œuvre sombre peu à peu dans l'oubli. Selon Šárka Leubnerová, ce sont ses origines allemandes qui ont nui à la réception de son œuvre par la postérité.
Au XXe siècle, la création de Wilhelm Riedel a été reléguée au domaine de l'art allemand. Ainsi, les Allemands le considéraient comme un étranger et les Tchèques comme un Allemand.
L'histoire de l'art du XXIe siècle se débarrasse heureusement de ce genre de préjugés et constate que l'art de ce peintre s'est développé dans le contexte tchèque et a subi, comme d'ailleurs toute la peinture tchèque de son temps, une profonde influence de l'art français. Ainsi, les historiens d'art replacent aujourd'hui Wilhelm Riedel aux côtés de Soběslav Pinkas et Viktor Barvicius, donc parmi les grands peintres de Bohème du XIXe siècle.
Fin de l'actualité sur les ondes de Radio Prague et passons tout de suite à la rubrique consacrée à l'économie et au commerce.
Économie, commerce.
Attention, on ne quitte plus une pièce sans éteindre la lumière. Les prix de l'électricité augmentent en ce début d'année 2008, et cela n'est sans doute qu'un début. Le débat est plus vaste et concerne l'évolution des politiques énergétiques en République tchèque, avec à la clé une question de base, dépendance ou indépendance. Les enjeux liés sont bien sûr aussi économiques. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs d'électricité en République tchèque. L'augmentation des prix devrait s'afficher comme une tendance lourde des années à venir. Le besoin de reconversion énergétique que connaît le pays en constitue la principale raison. face aux nouvelles sources d'énergie, le charbon, source traditionnelle en République tchèque, ne s'avère plus aussi fiable. Si en 2007, le géant de l'électricité et du gaz, ČEZ, utilisait le charbon pour plus de la moitié de sa production énergétique, il pense désormais tabler sur de nouvelles sources. ČEZ pense-t-il au nucléaire ? Aujourd'hui, l'énergie nucléaire compte pour environ 30% de la consommation énergétique du pays. On est loin ici du modèle français, par ailleurs unique en Europe, où le nucléaire couvre les besoins énergétiques de l'ensemble du pays. La volonté politique semble pour l'instant manquer en République tchèque pour une telle évolution et aucun plan d'ensemble n'est en vue. À preuve, la faible augmentation d'énergie nucléaire produite en 2007. C'est en fait le gaz qui a les faveurs de ČEZ. La compagnie a annoncé son intention de faire du gaz une source d'énergie majeure et de reconvertir ainsi ses unités de production de charbon dans ce sens. La construction d'une unité de production est en projet dans le nord de la Bohême. Le charbon étant une cause importante de pollution en Bohême et en Moravie du Nord, les choix de sources d'énergie verte comme le gaz naturel représentent un aspect positif. Mais est-ce vraiment un choix ? La Commission européenne a annoncé qu'elle procéderait à des audits sur le respect des limites d'émissions de CO2. En revanche, la reconversion devrait coûter cher et les prix pourraient bien doubler dans les années à venir, selon les experts. Autre point négatif soulevé par certains observateurs, le risque accru de dépendance à l'égard de la Russie si le gaz devenait la source d'énergie dominante. On a pu voir avec l'Ukraine il y a quelques années que Moscou n'hésitait pas à brandir la menace d'augmentation des prix pour des pressions éventuellement politiques. Il est vrai que la République tchèque n'est pas l'Ukraine et que contrairement à cette dernière, elle est totalement sortie d'une quelconque sphère d'influence russe depuis 1989. Il n'en reste pas moins que la Russie demeure le principal fournisseur de gaz en Europe, même si elle n'est pas le seul. En juin 2007, le président américain George Bush se rendait à Prague pour défendre son projet d'installation d'un radar antimissile en Bohême, un projet auquel la Russie s'oppose fermement. Deux mois plus tard, à l'occasion de la nomination prévue de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI, Fonds monétaire international, Poutine proposait une contre-candidature avec le Tchèque Jozef Tochovsky. La manœuvre de séduction, s'il s'agissait de cela, n'a en tout cas pas réussi, puisque le gouvernement tchèque a préféré respecter ses engagements auprès du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UE, arguant que Tochovsky, c'était le choix de Moscou, mais pas celui de Prague. Si la République tchèque dépendait entièrement du gaz, on peut imaginer que la séduction russe se transforme à l'occasion en pression. Le gaz naturel consommé en République tchèque provient en majorité du russe Gazprom, qui transite via l'Ukraine, et le gazoduc Drojba, mais également de la Norvège et de l'Allemagne. Si la République tchèque est largement dépendante des importations pour le gaz, elle est en revanche exportatrice d'électricité. Mais dans ce domaine aussi, de sérieux changements pourraient bien voir le jour. En septembre 2007, la Commission européenne a mis sur la table un plan visant à casser les quasi-monopoles de l'électricité en Europe. Le but affiché est d'obtenir une réduction des prix. Un souhait bien louable en cette année 2008 qui voit en République tchèque une augmentation généralisée de l'électricité. Une véritable constante, puisque depuis 2000, on observe une augmentation de 75% des prix de l'électricité. Malgré l'entrée de quelques petites compagnies dans le secteur en 2006, l'électricité reste dominée en République tchèque par trois colosses, ČEZ, E.ON, allemand, et PRE, Pražská Energetika. À eux trois, ils gèrent 95% de l'activité. À terme, les experts prédisent le même avenir pour l'électricité que pour le gaz. Face aux besoins accrus d'une économie en croissance, la République tchèque deviendrait importatrice d'électricité aux alentours de 2015. espérons que ces changements ne se transforment pas en bourrasque économique. Et rappelons pour finir les conséquences fâcheuses de la tempête Emma qui s'est récemment abattue sur la région. De nombreuses maisons ont été privées d'électricité, les vents violents ayant dans certaines régions déraciné des pylônes électriques. Au 1er mars dernier, soit au pic de la tempête, on comptait près d'un million de foyers sans courant. Notons que la normale a été très vite rétablie. Selon un sondage récent sur les peurs comparées des Français et des Tchèques, ces derniers placeraient les catastrophes naturelles, version cataclysme, parmi leurs plus grandes phobies. Et si la dépendance énergétique était plus à craindre.
Le temps passe vite et notre programme est arrivé à sa fin. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une nouvelle émission sur les ondes ou sur le site web de Radio Prague.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10:30 UTC emitimos para América Latina por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 y los 13.580 kHz. A las 19 y a las 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 y los 9.430 kHz. A las 21:30 UTC, nos pueden sintonizar en España por los 5.930 kHz y los 9.435 kHz. Y en esta frecuencia transmitimos también para América Latina. Nuestros oyentes latinoamericanos pueden captar nuestras emisiones a las 23:30 UTC por los 6.000 kHz a través de la repetidora en Seckville. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 5.930 kHz, 7.345 kHz y por los 11.665 kHz.